Bonjour, Françoise Illy, membre du conseil d'administration de l'association Église ouverte en Eure-et-Loir, avec Charles Jaubert, président de l'association. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, pour la demi-heure mensuelle de l'émission de notre association Église ouverte. Le thème d'aujourd'hui portera sur la sortie de l'association pour ses adhérents, un événement qui s'est déroulé le 16 septembre dernier en après-midi. Bonjour Charles.
Bonjour.
Après une année de jachère due à la pandémie, 45 adhérents se sont retrouvés pour partager une demi-journée à la découverte de trois églises de Beauce jamais visitées dans la région de Bonneval. Un vrai plaisir de retrouver l'ambiance de nos sorties, nos visites, n'est-ce pas, Président ?
En effet, nous étions fort désolés de n'avoir pu faire aucune manifestation pour notre association au cours de l'année 2020, on sait malheureusement pour quelles raisons, et nous voulions absolument quand même offrir à nos adhérents au moins une manifestation au cours de cette année 2021. Alors nous avons agi timidement, à petits pas, pour reprendre des activités dans le respect des règles sanitaires. C'est la raison pour laquelle on a oublié la formule habituelle de nos sorties. Cette sortie a lieu en général toute la journée, elle se fait en quart, avec un repas à midi, pris en commun. Donc on a évité tous les contacts dans les lieux clos. C'est la raison pour laquelle on a limité donc notre journée à une demi-journée, avec effectivement un transport en voiture particulière et non pas en bus. Et évidemment, puisque c'est la demi-journée, sans repas pris en commun à midi. Voilà. Mais nous avons eu quand même le soir la joie de prendre un pot en commun à l'issue de notre visite.
En effet, donc sortie en voiture particulière avec le pass sanitaire. Donc nous avons visité trois églises, Mêlée-le-Vidame, Vitré-en-Beauce et Saint-Loup de la Bourdinière-Saint-Loup. Nous allons essayer de vous faire revivre les temps forts de cet après-midi. Et pour cela, c'est au président de l'association Église ouverte en Eure-et-Loir, Charles Jaubert, spécialiste en patrimoine et grand érudit en matière de patrimoine religieux, que je laisse la parole. Si vous voulez bien, Charles, commençons par l'église de Mêlée-le-Vidame que nous avons visitée en premier et que, de l'extérieur, certains visiteurs ont pris pour un temple, d'autres pour la mairie.
En effet, quand on passe dans ce petit village de Beauce et que l'on voit cette façade, elle évoque pour nous tout à fait ce que pourrait être une mairie ou un palais de justice. C'est-à-dire que ça ressemble à une forme de temple grec qui n'a rien de religieux, d'autant plus qu'il n'y a pas de signe extérieur vraiment visible, il n'y a pas de croix. Il y a un clocher, mais il est tout à fait derrière, on ne le voit pas du tout de façade. Et c'est tout à fait étonnant de voir ce type de temple grec dans un village de Beauce. Alors, tout ça s'explique en réalité par l'époque à laquelle a été construite cette église. Tout d'abord, elle a été construite grâce à un legs particulier de la comtesse de Mêlée, qui habitait évidemment le château de Mêlée, qui est juste à côté de l'église d'ailleurs, et elle a fait un don important pour construire une église. Cette femme meurt le 24 août 1789. Et on sait que quelques semaines plus tôt, s'était déroulé un événement que nous connaissons tous, la prise de la Bastille. Donc c'était le début de la Révolution, avec tous ses troubles, toutes ses difficultés, et également sa politique évidemment de déchristianisation, et les temps n'étaient pas favorables à la construction de l'Église. Il a fallu attendre le Concordat de 1802 et le Premier Empire pour qu'enfin son légataire puisse, qui s'appelait Monsieur d'Amblay, puisse réaliser le legs de cette dame et construire la fameuse église. Alors, il fit appel pour cela à un architecte qui s'appelle Nicolas Vestier, alors qui n'est pas connu parce qu'il n'a pas laissé un grand nom dans l'histoire de l'architecture, mais qui est assez intéressant parce que ce monsieur était architecte du département d'Eure-et-Loir. Alors, les départements avaient un architecte attitré, un architecte officiel, et dans l'Eure-et-Loir, c'était ce monsieur Vestier. Ce monsieur Vestier s'est illustré à Paris, dès avant la Révolution d'ailleurs, dans la construction d'un certain nombre d'immeubles, dont certains existent toujours, rue des Colonnes en particulier. Et notre secrétaire, Yves Rabourdin, nous avait d'ailleurs apporté à cette occasion quelques reproductions de photos de ces façades de maisons de la rue des Colonnes dans le 2e arrondissement de Paris. où on voit un style qui est un style extrêmement gréco-romain, d'ailleurs, et on peut dire que Vestier, eh bien, se rapproche d'une école d'architecture qu'on a connue à la fin du XVIIIe siècle en France, qu'on appelait les architectes utopiques. Alors, parmi eux, le plus connu est certainement Boulez, qui a fait un certain nombre de choses, et Ledoux, qui a les fameuses salines d'Arc-et-Senan, sont les deux grandes figures, parmi d'autres, de ces architectes dits utopiques, et il fait un peu partie de cette école. C'est-à-dire qu'on retourne à l'Antiquité, mais une Antiquité très primitive, une Antiquité gréco-romaine, avec un monument qui est extrêmement sobre, extrêmement dépouillé, extrêmement fruste même. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette église présente une grande unité, car ce monsieur construit l'église, et ce qui est normal, il est architecte, mais il va aller jusqu'à dessiner tout le mobilier de l'église. Et c'est lui qui va dessiner, en particulier, la chaire à prêcher, par exemple, un confessionnal qui ressemble à l'Arc de Triomphe, le maître-autel, le banc d'œuvre, même le pied du Serge Pascal, si bien qu'on a dans cette église une unité absolument exceptionnelle d'un ensemble de mobilier réalisé à l'époque du Premier Empire, qui est entièrement classé monument historique d'ailleurs. Voilà le grand intérêt de cette église. Et c'est mon fils, d'ailleurs, qui me l'a fait découvrir, parce que je ne sais pas pourquoi, il en avait entendu parler, et il voulait absolument la voir. Et je l'ai découvert, cette église, il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de juillet 2021. Et à la suite de ça, quand il a fallu trouver un certain nombre d'églises à visiter pour notre sortie du mois de septembre, comme en plus c'était une demi-journée, qu'il ne fallait pas aller trop loin, et qu'il fallait qu'elle soit assez proche de Chartres, bien là, c'était tout à fait convenable en termes de proximité, et c'est pour ça que cette église a été choisie. Alors, ce qui a été intéressant au cours de cette visite également, et je tiens à appeler l'attention là-dessus, c'est qu'on a tenté d'identifier un tableau du XVIIe siècle qui se trouve au revers de la façade. Alors, quand j'ai visité cette église pour la première fois, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que ça représentait. Et on n'a pas pu me répondre. C'est-à-dire, on m'a dit, c'est certainement des Maltais, alors l'ordre de Malte. Alors, en effet, il y avait des personnages qui avaient la croix de Malte sur leur habillement. Donc, on en a conclu que c'était effectivement l'ordre de Malte qui a été représenté avec la Vierge qui leur apparaissait. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et j'ai pu retrouver par des rapprochements, si vous voulez, la signification précise. Alors, c'est très simple, je vais aller le plus vite possible. C'est que ça relate un miracle qui s'est déroulé en 1134 au Caire. C'est évidemment la période des croisades, et nous avons trois chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem qui sont faits prisonniers. Ils sont faits prisonniers par le sultan du lieu, ils sont emprisonnés, et évidemment, on veut leur faire renier leur foi. Bon, c'est classique, hein, c'est ce que l'on fait habituellement. Ils ne veulent pas, évidemment, renier la foi catholique. Et pour les convaincre, c'est facile. En général, quand on veut convaincre un homme, on lui envoie une femme, parce qu'on pense qu'il ne résistera pas à ses charmes. Mais là, ils avaient la foi chevillée au corps, ces braves chevaliers, et la fille du roi n'a pas du tout réussi à les convaincre. Au contraire, elle va assister avec eux à un miracle, c'est-à-dire qu'une statue de la Vierge Marie en bois noir va apparaître, etc. Et cette Vierge va s'adresser à la fille du roi en disant « Aie confiance, j'ai prié pour toi mon fils le Seigneur, il a daigné te choisir comme sa fidèle et bien-aimée servante. » Et elle lui annonce qu'elle délivrera les prisonniers de leur geôle. En effet, ils sont effectivement, arrivent à s'évader et ils se retrouvent comme par miracle dans leur lieu d'origine parce que ce sont des personnages qui sont natifs de la région de Laon, dans l'Aisne actuelle. Et là va apparaître une statue de la Vierge qui va prendre une importance considérable. Et à l'emplacement où apparaît cette statue de la Vierge sera élevée une église, qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs, dans le diocèse de Soissons, qui s'appelle Notre-Dame de Liesse, c'est-à-dire Notre-Dame de la Joie. Alors j'étais très content, si vous voulez, de retrouver cela. Et ça, ce qui m'a mis un peu sur la piste aussi, c'est que j'ai trouvé dans un mémoire du début 17e une indication très intéressante à l'occasion de la bénédiction de la clèche de l'église que nous allons voir dans quelques instants, dont nous allons parler dans quelques instants, celle de Vitré-en-Beauce. le curé de Vitré-en-Beauce, qui va effectivement remplacer la cloche qui était cassée, est dit et désigné, il s'appelait Messire Jean Perrault, et on dit curé de Séan, pèlerin de Notre-Dame de Liesse. Voyez le lien. Donc effectivement, ce brave curé de Vitré a fait le pèlerinage dans l'Aisne à Notre-Dame de Liesse, et peut-être que c'est lui qui a eu l'idée ensuite, au début du XVIIe, de faire réaliser ce tableau qui a été ainsi identifié. Voilà pour cette histoire que je voulais vous raconter.
Qui nous permet également de faire la transition avec la deuxième église visitée à Vitré-en-Beauce.
Alors là, effectivement, c'est à quelques kilomètres, hein, 4 oui. kilomètres, c'est rapide. Et nous avons été accueillis ici par le premier magistrat, c'est-à-dire M. Éric Delahaye, qui a tenu à nous accompagner tout au long de notre visite. J'en profite d'ailleurs pour dire que nous avons toujours été accueillis par les maires ou par les autorités religieuses dans toutes ces églises que nous avons visitées. J'en profite aussi pour rappeler que l'abbé Sébastien Robert, vicaire général, qui est devenu curé de Bonneval, nous a gentiment accueillis, a introduit notre journée à Mélel-Vidame. Et ainsi que le maire, évidemment, qui s'appelle Monsieur Serge Lebac, etc., était là. Et à Saint-Denis de Vitré-en-Beauce, c'est Monsieur Éric Delahaye qui nous a accueillis et qui nous a accompagnés durant notre visite. Alors, quand on a voulu faire un choix des églises sélectionnées, bien entendu, je vous ai expliqué la raison pour laquelle on avait choisi Mélel-Vidame. C'est grâce à une visite tout à fait récente. J'ai posé la question à l'ancien curé du lieu. Et comme vous le savez, c'est l'abbé Muchery, qui est délégué de l'évêque auprès de notre association, qui a été curé de nombreuses années à Bonneval. Donc il connaissait parfaitement les lieux. Et il nous a donc conseillé d'aller visiter l'église de Vitré-en-Beauce, en raison en particulier de l'intérêt de son retable. Voilà. Alors on y vient. Ce retable est tout à fait exceptionnel. Et il est caractéristique, dirais-je, de la sculpture bretonne, curieusement. Alors, on a en Beauce un certain nombre de réalisations d'un sculpteur sur bois qui s'appelle Charles Roscoët. Charles Roscoët était originaire de Kernevel, dans le diocèse de Quimper, et il s'est marié avec une beauceronne, et il s'est marié en 765 exactement à l'église d'Aluy. Donc, il va apporter son art avec lui, c'est un sculpteur, et il va réaliser, entre autres, les fonts baptismaux de l'église de Pré-Saint-Évroult, qui sont exceptionnels par leur richesse, parce que c'est évidemment un style extrêmement fleuri, extrêmement baroque, et aussi la plus belle chaire à prêcher de tout le diocèse de Chartres, sans aucun doute, à savoir celle de l'église de Yèvre. Et entre autres, alors évidemment, cet important retable en bois naturel, de l'église de Vitré. Alors, il faut savoir que cet homme habitait à lui et il avait réalisé ce très beau retable pour l'église Saint-Germain d'Aluy. Or, hélas, cette église, depuis lors, a été détruite au moment de la Révolution. Et c'est la raison pour laquelle on a pu récupérer et on a transféré ce retable d'Aluy à Vitré-en-Beauce en 1817. Et il présente évidemment un intérêt très grand par sa qualité de sa sculpture. Alors c'est une église qui par ailleurs a d'autres éléments fort intéressants, un banc d'œuvre en particulier de style très classique, à colonnade, très pur, très classique et tout à fait intéressant. Et quelques traces de peinture murale retrouvées sur le mur sud de l'église qu'on n'a pas pu d'ailleurs identifier de manière très précise.
Merci Charles. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Avec un morceau que vous nous proposez, il s'agit de l'Ave Verum de Saint-Saëns dans l'esprit de l'époque des églises visitées.
Thank you.
Vous écoutez Radio Grand Ciel avec l'association Église Ouverte en Eure-et-Loire qui reçoit aujourd'hui Charles Jobert, président de l'association Église Ouverte en Eure-et-Loire, pour nous relater la sortie de l'association au profit de ses adhérents, une sortie qui s'est déroulée le 16 septembre dernier en après-midi. Charles, pouvez-vous maintenant passer à la visite de la troisième et dernière église de cette sortie automnale? Nous étions à la Bourdinière Saint-Loup.
Alors en effet, il nous a fallu parcourir seulement 2-3 km, pas plus, pour nous rendre de Vitré-en-Beauce jusqu'à la Bourdinière Saint-Loup.
Traverser la Nationale.
Voilà, exactement, traverser la 10, ce qui n'est pas toujours le plus facile d'ailleurs. Enfin donc, nous y sommes parvenus. Et disons qu'on a choisi cette église pour une raison toute simple, c'est qu'elle était proche, car il fallait évidemment dans une après-midi voir 13 églises, il faut qu'elle soit quand même très ramassée géographiquement. Et aussi parce que là, nous étions sûrs d'être fort bien accueillis par la trésorière de notre association, Dominique Maroquin, qui est adjointe du maire de la Bourdinière Saint-Loup. Donc, c'était très intéressant, bien évidemment, de visiter cette église sous sa conduite. Alors, il faut dire aussi, ce qui est très important, c'est que Dominique Maroquin est la présidente d'une association, l'Association des Amis du Patrimoine de Saint-Loup, et que cette association a eu un beau projet qu'elle a mis quelque temps à faire, mais qui a été entièrement réalisé, concernant la restauration de pas moins de 19 statues, ce qui est considérable, évidemment, dans cette petite église rurale. Alors, faut savoir d'abord que la Bourdinière Saint-Loup, c'est une commune qui a deux pôles, la Bourdinière, qui se trouve sur la Nationale 10, dont nous venons de parler, et puis à un kilomètre de là, un peu plus, il y a le vieux village où se trouve l'église. Donc l'église, la paroisse, était à Saint-Loup. Cette petite église très rurale a été placée sous le vocable d'un certain Saint-Loup. Alors il faut savoir, lorsqu'on regarde le martyrologe romain, que les Saint-Loups sont assez nombreux. On en trouve à peu près, enfin les principaux, disons quatre. Il y a un Saint-Loup de Troyes, un Saint-Loup de Sens, un Saint-Loup de Bergame, un Saint-Loup de Ferrières. Et il apparaît que le nôtre, le Saint-Loup de la Bourdinière Saint-Loup, serait en fait l'archevêque de Sens. Et ceci, nous l'avons trouvé grâce au reliquaire qui est conservé dans cette église. Alors, l'église de Saint-Loup conserve un petit reliquaire qui n'a pas beaucoup d'intérêt au niveau archéologique ou historique. Il s'agit d'une châsse refaite au XIXe siècle, comme on en a fait beaucoup d'ailleurs, pour remplacer les reliquaires fondus au moment de la Révolution. Et on voit très bien dans ce petit reliquaire des petits ossements, et sur ces ossements, il y a ce qu'on appelle un phylactère, une bande de papier, sur laquelle se trouve inscrit le nom du saint considéré. Et on y voit effectivement qu'il s'agit de Saint-Loup de Sens. Donc là, évidemment, tout équivoque est écarté. Il n'y a plus de doute, il n'y a pas d'erreur possible. Il s'agissait bien de l'ancien archevêque de Sens. Alors cet archevêque a vécu au IXe siècle. Il a été effectivement élu archevêque de Sens, car on était élu à l'époque en 809. Et il a déplu au roi de l'époque qui s'appelait Clotaire. Et Clotaire l'avait envoyé en exil parce qu'il s'était montré peut-être un peu récalcitrant. Il a tout de même assisté au concile de Paris qui s'est déroulé en 614 et est mort vers 623. Alors, évidemment, la vie de ce saint évêque a été relatée, comme d'habitude, par la fameuse légende dorée, qui nous rapporte des miracles absolument extraordinaires, plus merveilleux les uns que les autres. Alors, toujours dans son démêlé avec le roi Clotaire, il y a un événement qui est assez amusant, c'est-à-dire que Clotaire avait décidé que la cloche de Saint-Étienne de Sens allait orner la cathédrale de Paris. Donc, effectivement, il fait transporter la cloche de Sens à Paris, ainsi privant les habitants de Sens de leur belle cloche. Mais évidemment, miracle, eh bien, cette cloche, une fois arrivée à Paris, devenue muette et impossible de la sonner. Et évidemment, elle s'est ainsi vengée de cette espèce de vol qui a été fait par le roi Clotaire. Ça, c'est le premier miracle. Ensuite, on dit qu'il avait enfermé dans un pot le diable qui voulait le tenter. On dit aussi effectivement que pendant qu'il célébrait la messe, une pierre précieuse tombait du ciel dans le calice. Enfin voilà, donc tout un tas de miracles extraordinaires, plus merveilleux les uns que les autres, qui nous sont relatés par la fameuse légende dorée. Voilà. Alors il faut savoir aussi que Saint-Loup était un saint quand même assez vénéré au Moyen-Âge et qu'il a donné son nom à deux principales communes, il y en a d'autres, hein. Saint-Loup-Neau d'abord, qui est une ville, ou un village plutôt, qui possède une magnifique église, d'ailleurs splendide, dans Seine-et-Marne, dans le diocèse de Meaux, l'église de Saint-Loup-Neau, qui est une église considérable, et également, tout aussi considérable, l'église de Saint-Loup-d'Esrans, une très grande église, effectivement, dans le diocèse de Beauvais, celle-là, dans l'Oise actuelle. Alors, il faut savoir, effectivement, que Loup se prononçait Le au Moyen-Âge. Donc, évidemment, on disait les Le, c'était les loups. Et les personnes qui portent le nom de Le, j'en connais, eh bien, c'est des gens qui, en fin de compte, devraient avoir comme nom le loup, comme il en existe d'ailleurs. Et quand on parle de Saint-Leu-d'Esrans, je dis bien de Saint-Loup, bien évidemment. Alors, par son patronyme, c'était facile, on invoquait plutôt ce saint contre les loups. C'était le patron des bergers qui voulait évidemment se protéger des fureurs des loups carnassiers qui venaient dévorer les brebis. Et c'est aussi celui qu'on invoquait contre les peurs d'enfants, hein, parce que les pauvres enfants, évidemment, la nuit, ils avaient des cauchemars abominables, ils entendaient les loups, ils criaient, ils avaient peur. Et alors, évidemment, pour calmer ces pauvres enfants des terreurs de la nuit, eh bien, on invoquait le bon Saint-Loup contre les loups. Alors, il est, ce brave Saint-Loup, fêté le 1er septembre, et il est fêté le même jour qu'un autre saint, très intéressant aussi pour nous, Saint-Gilles. Et c'est peut-être la raison pour laquelle eh bien, on trouve dans le cœur de cette église de Saint-Loup eh bien, un vitrail où on voit lupus, c'est-à-dire en latin loup, crossé, mitré, avec son pallium d'archevêque. Et juste de l'autre côté, on voit Saint-Gilles avec sa fameuse biche, parce qu'ils sont associés dans la mesure où ils sont tous les deux fêtés le même jour. Alors voilà, donc je vous disais 19 statues, c'est énorme. Mais attention, hein, il y a de tout, il y a des petites et des grandes. Alors Dominique Maroquin, qui nous a évidemment accueillis là-bas, nous a bien dit, vous savez, bon, il y a des grandes statues normales, comme on en voit habituellement dans les églises, mais à côté de ça, il y a des toutes petites, en particulier qui figurent sur le tabernacle. Voilà. Mais toutes ces statues sont polychromes et ont retrouvé leur belle couleur d'antan. Et c'est un vrai plaisir, bien entendu, que de redécouvrir cette collection magnifique de statues.
Voilà. Et donc, à Saint-Loup, après
Bah Saint-Loup, on en a profité pour voir.
On a bu d'abord.
Ah oui, en effet, ça c'est important à rappeler. J'oubliais, voyez-vous, nous avons chanté les vêpres
comme de coutume,
comme on fait habituellement. C'est un vicaire d'ailleurs de Luisant qui est venu avec nous pour présider ces vêpres. On tient beaucoup à toujours terminer nos visites dans l'action de grâce d'ailleurs, parce que les vêpres c'est une action de grâce rendue pour les bienfaits de la journée. Donc c'était très important de le faire, et il était très important aussi de se retrouver un peu ensemble, après évidemment plus d'un an de séparation. Là pour le coup, on a ensemble pu boire un pot, se retrouver, parler, échanger, en espérant que bien l'avenir nous permettra de renouer avec nos vieilles traditions, de se revoir deux fois par an, puisque normalement on fait une visite au printemps, et une visite à l'automne. Je souligne d'ailleurs à ce sujet que nous avons eu en 2021 une deuxième activité. C'est un cours d'art floral liturgique qui nous a été donné par Madame de Buigne à la Visitation le 7 octobre. Alors, ça n'a pas attiré énormément de monde, je dois le dire. C'est un peu dommage d'ailleurs. Mais ceux qui ont participé à cette formation ont été très enthousiastes. Au point qu'ils ont demandé un bis. Alors peut-être que nous en parlerons au conseil d'administration, un deuxième cours de formation à l'art liturgique, floral liturgique, autour d'un thème qui nous a déjà été proposé sur la décoration du cierge pascal à l'occasion de Pâques. Et je pense que ça serait une très bonne initiative.
Un événement qui ne sera pas...
C'est un scoop hein, que je vous donne aujourd'hui. Oui. Jusqu'à présent, on n'en a
et
pas parlé.
Et c'est un événement qu'on ne peut pas retransmettre sur Radio Grand Ciel, dommage.
Hélas, tant on aura une télévision Grand Ciel peut-être.
Voilà. Voilà. Donc nous voilà arrivés à la fin de notre émission. Chers auditeurs, merci de votre attention. Merci évidemment à Charles Jobert, président de l'association, pour ce retour sur notre sortie formation au profit des adhérents. Merci à Simon qui assure la technique. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le site internet Radio Grand Ciel, sur le site de notre association Église Ouverte en Eure-et-Loire. On aurait peut-être pu dire au Charles aussi qu'on a profité de cette sortie pour distribuer, pour continuer
Alors,
à distribuer des...
Oui, le fameux guide.
Le guide.
Faut rappeler que notre guide des Églises Ouvertes en Eure-et-Loire, qui a été publié, je crois, en 2018,
donc deuxième publication, actualisé,
réédité, mis à jour, et il a été distribué à partir du mois d'août 2021. Et bien entendu, nous assurons sa diffusion.
C'est un livret qui est distribué gratuitement et qui est réalisé en partenariat avec le conseil départemental. Donc nous en avons distribué quelques-uns.
On l'a arrosé normalement déjà tous les offices de tourisme d'Eure-et-Loire, c'est-à-dire Dreux, Chartres, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou. On en a mis dans la plupart des églises ouvertes et bien entendu... On en a distribué un certain nombre d'endroits. Il y en a ici à la Visitation. Enfin, on peut se procurer facilement.
Au revoir à tous. Bonne journée sur les ondes de Radio Grand Ciel. À bientôt.